Et Félix, on en parle dans la presse et sur les réseaux sociaux en Biélorussie, dans un contexte politique, on le sait, très tendu. Eh bien, des militaires se filment en train de jeter leur uniforme.
Oui, la Biélorussie qui connaît une vague de protestations sévèrement réprimée dans les rues. Des gens allongés comme un tapis vivant dans une mare de sang, rapporte un témoin dans Le Monde. Le président Loukachenko, que beaucoup appellent le dernier dictateur d'Europe, vient d'être réélu à plus de 80%, un scrutin accusé de fraude massive. Et face à la répression impitoyable des manifestants, plusieurs militaires sur les réseaux sociaux ont publiquement fait le choix de quitter l'armée. Il n'y a plus de fraternité dans les forces spéciales biélorusses du pays, lance celui-ci. Avant de jeter son képi dans une poubelle pour protester contre cette répression. Ils sont nombreux à poser des actes similaires. Le serment a été rompu, lance cet autre militaire, avant de jeter tout son uniforme dans un conteneur, dans une autre vidéo, là aussi relayée par le Huffington Post. J'ai prêté serment à mon peuple, je ne peux pas être fier quand je vois de mes yeux ce qui se passe à Minsk, lance cet autre militaire. J'ai prêté serment à mon peuple, je ne peux plus garder cet uniforme, conclut-il avant d'accomplir le même geste, jetant son vêtement kaki dans une poubelle. 7000 personnes interpellées, des images de manifestants roués de coups. Chose exceptionnelle, le ministre biélorusse de l'Intérieur a présenté des excuses pour cette répression. Oui, et ça témoigne du fait que le pouvoir est fragilisé par la colère populaire et fragilisé aussi par ses défections au sein de l'armée et des forces de l'ordre.
Bon, on revient en France, Félix, avec cette histoire qui fait beaucoup réagir, des images étonnantes, une averse de grêle a semé la pagaille sur le critérium du Dauphiné.
Oui, des conditions dantesques pour ces cyclistes obligés de s'arrêter hier, comme en témoignent beaucoup de vidéos prises sur leur passage. On voit des cyclistes qui se rangent très vite pour se mettre à l'abri des grêlons. D'autres tentent un peu de tracer leur route, mais certains manquent de glisser et finissent très vite par se ranger à l'abri sur le bas-côté. Mais bon, à l'abri, là, on parle que des plus chanceux. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu s'abriter, comme le Belge Tim De Klerk qui a posé sur Instagram une photo de son dos, mais recouvert de marques rouges vives. On voit nettement la trace de chaque grêlon, un dos martyrisé, comme si le Dauphiné n'était pas assez douloureux pour les jambes, ajoutait le cycliste, qui garde quand même un peu d'ironie. Même photo, dans une moindre mesure, pour le Français Maxime Chevalier, qui lui aussi a posté l'image de son dos couvert de rougeur à l'issue de cette étape martelée par la grêle.
Bah ça, Félix, ça vous donne une raison de plus de ne pas vous mettre au sport, non, c'est ça?
Ah bah voilà, exactement. Bien à l'abri, bien au chaud.
Bah oui, allez, on passe plus sérieusement à la revue de presse et la grande peur des soignants. Ça, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France.
Et oui, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se dégradent. Infirmières et médecins craignent déjà une deuxième vague, indique le Parisien. Masque obligatoire, titre de son côté La Montagne. La préfète du Puy-de-Dôme a emboîté le pas hier à d'autres villes pour rendre le masque obligatoire en extérieur, dans l'hypercentre de Clermont-Ferrand, à partir de demain. C'est aussi le cas de Montpérou et Mont-d'Or dans le Puy-de-Dôme. C'est aussi d'ailleurs la une de la Voix du Nord. Le port du masque se généralise, ou encore de Vosges matin, on va sortir masqué.
Et d'ailleurs, avant Clermont demain, c'est Nantes aujourd'hui qui s'y met au port du masque obligatoire à l'extérieur.
Alors 50 gendarmes positifs au Covid-19, ça c'est la une de la Nouvelle République des Pyrénées. De retour de mission à Tahiti, 50 militaires de l'escadron de gendarmerie mobile de Tarbes ont été testés positifs. Et c'est la première fois qu'un foyer d'infection aussi important est détecté dans les Hautes-Pyrénées, précise la Nouvelle République des Pyrénées. Dans ce contexte, donc encore un peu réjouissant, on peut le dire, sur le front du Covid, une belle initiative du côté de la République des Pyrénées, celle d'Andrea, anesthésiste à la retraite à Loubien. Elle a décidé cet été d'accueillir chez elle des soignants du Grand Est, l'occasion de faire de belles rencontres sur le bord de la piscine entre ces professionnels de santé qui étaient sur le front et leurs prédécesseurs, donc retraités, mais toujours solidaires.
Très belle initiative. Bon, on va parler du portefeuille maintenant, Félix, avec la dépêche du midi et ce titre « Très cher fruits et légumes ».
Et oui, avec la photo d'une cliente devant une étale en train de remplir un sac de pommes, l'association Famille Rurale pointe des hausses de prix sur un an allant jusqu'à 17% quand même pour les fruits. Un phénomène accentué par la crise sanitaire et qui pourrait pousser les Français à consommer local, nous dit la dépêche. Dans ce contexte, la guerre des prix est relancée entre les distributeurs, nous disent les Échos. Les enseignes anticipent la crise économique liée au Covid et elles cherchent à tirer les prix des produits courants vers le bas.
Libération s'intéresse de son côté à Nicolas Sarkozy avec ce titre assez surprenant, le tube de l'été.
Et oui, on parle bien de l'ancien chef de l'État. Et pour la photo, il est face à des fans en train de le prendre en photo, agglutiné derrière des barrières. Son livre, Le temps des tempêtes, fait un carton et ses supporters se bousculent aux séances de dédicaces. L'ancien président qui se dit rangé de la politique, il savoure son succès avant d'être rattrapé par ses procès, indique Libération.
Bah oui, la rentrée va être judiciaire, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. 215 000 exemplaires vendus quand même pour son livre. Il est devant Musso et devant Joël Dicker. Troisième semaine en tête des ventes pour Nicolas Sarkozy, qui continue de triompher effectivement dans les librairies. Du côté de Vaucluse matin, Félix, et bah c'est une photo du président Trump avec un verre de vin rouge à la main.
Et oui, sur la photo, on le voit porter un toast. Mais le titre, c'est beaucoup moins enthousiasmant. Hein, c'est « La guerre du vin ». Et oui, et s'il boit rarement du vin, Donald Trump, il sait en revanche l'utiliser dans sa guerre commerciale avec l'Europe. Il vient de prolonger les droits de douane punitifs qui visent plusieurs pays européens. Des droits de douane donc notamment sur le vin. À l'origine en fait du contentieux, eh bien, il y a la concurrence entre Airbus et Boeing. Concurrence jugée déloyale par Washington à cause des aides de l'Union européenne à Airbus. Conséquence donc, les États-Unis taxent évidemment Airbus, mais aussi les fromages, les olives et surtout donc les alcools. Un bras de fer qui tombe mal pour les viticulteurs français, explique Vaucluse matin. Des viticulteurs déjà fragilisés par la crise sanitaire.
Et oui, on le sait. On termine avec néanmoins un jeu de mots. Alors c'est une habitude du côté de l'équipe, mais cette fois il est peut-être un peu plus subtil que d'habitude.
Ah ouais.
Il était une fois.
Oui, FOI comme la foi des supporters peut-être. Le PSG affrontera mardi en demi-finale l'inattendu RB Leipzig. Vainqueur hier 2-1 contre l'Atlético de Madrid. Donc après son score face à l'Atalanta Bergame, le PSG rêve plus que jamais du sacre européen, nous dit l'équipe.
Et c'est quoi votre pronostic? Tenez, mouillez-vous un petit peu, Félix.
Allez, 3-2 pour le PSG.
Sur la demi-finale?
Ah bah oui.
Donc ils vont en finale et en finale ils gagnent ou pas? Attention, on enregistre avec notre réalisateur
en
Richard.
En finale ils gagnent 3, ils gagnent... match nul avec l'OL, c'est possible ça?
Mais non, c'est pas possible, il faut un gagnant, Félix.
Bah oui, au tir au but, alors du coup 3-2 au tir au but pour l'un des deux Français, allez.
Ah d'accord, si on a les deux, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en finale, ça serait pas mal. L'OL qui joue d'ailleurs samedi son quart de finale face à Manchester City. Merci Félix Mathieu. Allez, on prolonge cette revue de presse avec un focus sur l'indépendance. Et on est avec son rédacteur en chef. Bonjour Pierre Matisse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec à la une de l'Indépendant aujourd'hui la stratégie anti-incendie des pompiers des Pyrénées-Orientales. Et ce n'est pas anodin, hein, Pierre, car on est un an après le grand incendie de Mons, hein, dans l'Aude.
Mais alors oui, l'incendie de Mons s'était déroulé dans l'Aude. Ça avait été le plus important incendie de France l'année dernière. Hein. Il y avait plus de 1100 hectares à peu près de très belles forêts avec du pavalep qui avaient brûlé. Donc ça c'est la première partie de nos reportages. On est allé à Mons voir un petit peu comment le village se remettait de ça et était en train aujourd'hui surtout d'évacuer le bois de couper le bois qui encombre la forêt avant de penser à replanter, à réaménager cette forêt. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, on a voulu faire un focus effectivement sur la stratégie des pompiers des PO qui se sont déployés de manière extrêmement volontariste cet été pour intervenir le plus vite et le plus fort possible. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche puisque il y a eu plus de 300 départs de feu cet été et au total 105 hectares de brûlés, ce qui est vraiment pas énorme.
Et donc, ils ont limité la casse, vraiment.
Voilà, ouais, on l'a constaté tout l'été. On avait des départs de feu et puis ils étaient
rapidement contenus,
voilà. Et on est allé voir un petit peu les pompiers pour qu'ils nous expliquent leur stratégie.
Et puis autre actualité, hein, dans l'Indépendant aussi, une histoire de boîte de nuit qui reste ouverte malgré l'interdiction, c'est ça, c'est du côté de Barcarès.
Oui, c'est au Barcarès. Alors c'est dans le complexe de Marina qui est très connu, hein, qui est un endroit de la nuit très connu. Disons que les propriétaires se réfugient derrière le fait qu'il y a trois sociétés, hein. Il y a un bar, il y a un restaurant, il y a une boîte de nuit. Et puis il y a peut-être trois sociétés, mais on n'est pas du tout persuadé que entre les trois il n'y ait pas eu de confusion dans le genre. Quoi. Donc, voilà. Donc la préfecture a demandé. À cet établissement de respecter un décret qui date du 10 juillet sur les établissements de nuit. Et les propriétaires répondent qu'ils vont continuer d'ouvrir le restaurant. Je ne suis pas sûr que le préfet soit tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va suivre la suite de cet épisode.
Oui, dossier à suivre en tout cas et à lire, hein, à découvrir, hein, déjà ce matin dans l'Indépendant. Merci Pierre Matisse et très bonne journée à vous. Allez, 8h42, je vous rappelle notre question du jour, car c'est le moment de donner votre avis à moins de 20 minutes là, du débat. Selon vous, faut-il rendre le port du masque obligatoire dans votre entreprise, au bureau, lieu de travail? Vous votez et vous commentez. On lira d'ailleurs votre commentaire tout à l'heure avec nos invités pour le débat qu'on nous rejoindra juste après le journal de 9h. Mais avant ça, on va se balader dans le Grand Matin été avec à suivre le gîte et le couvert. A tout de suite sur Sud Radio.